Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, merci de nous suivre à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Dans 30 minutes, comme tous les matins, vous le savez, c'est votre débat du jour et on attend ce matin vos réactions sur la présidentielle de samedi au Gabon. Une élection pour tourner la page de la transition, 18 mois après le coup d'état militaire. 8 candidats sont en lice, parmi eux le président de la transition, Oligui Nguema, mais aussi l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibine ou encore Zenaba Nyinga Shaning, la seule femme dans la course. Tous battent campagne depuis maintenant une bonne semaine. Lutte contre le chômage et la corruption, amélioration des conditions de vie, développement du pays. En tout cas, tous promettent la rupture avec le régime Bongo. Dites-nous, évidemment, à 5 jours du scrutin, si les programmes des candidats sont à la hauteur de vos attentes. Avez-vous déjà fait votre choix? Savez-vous à l'heure actuelle pour qui vous allez voter samedi? Et dites-nous si ce scrutin peut se jouer en un seul tour. Vos analyses, vos témoignages évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, Edith Divin est avec nous. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs et à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité, puis à Margot et à Quentin.
Ah, qui sont en coulisses et qui m'aident à préparer cette émission. Merci de penser à eux. Edith Divin, vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur les trois Américains condamnés à mort pour leur implication dans la tentative de coup d'État dans votre pays. C'était en mai 2024.
Justement, M. Gomez, 3 ressortissants américains ont été graciés. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique ce retournement de la situation? Quels avaient été les rôles dans ces coups d'État ratés?
Le rôle de ces Américains. 3 Américains, effectivement, graciés il y a quelques jours hein, par le président Félix Tshisekedi. Bonjour, Paulina Zidi.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Comment expliquer ce retournement de situation? Nous demande Edith Divin.
Alors on ne peut pas vraiment parler d'un retournement de situation. Hein. C'était quelque chose que l'on savait possible, hein, même probable. En réalité, à partir du moment où la justice est passée, dans le cas de ressortissants étrangers, il y a la diplomatie qui rentre en ligne de compte. Alors sans parler de ce cas précis, on sait que les chancelleries font des pressions diplomatiques sur les États quand leurs ressortissants sont jugés. Quand je dis pressions, ce ne sont pas des pressions sur la justice, hein, mais sur le pouvoir politique pour qu'il assure l'intégrité des personnes jugées, leur sécurité, mais aussi leur droit à un procès juste et équitable. Ensuite, quand la justice est passée, la diplomatie peut entrer en ligne de compte pour parvenir à faire en sorte que la personne jugée regagne son pays. Et c'est un peu ce que l'on imagine derrière cette grâce.
Et concrètement, Paulina Zidi, que dit cette grâce accordée par le président Tshisekedi?
En fait, elle dit que le dossier judiciaire est clos côté congolais. Ils ont été jugés, condamnés, leur peine a été commuée en prison à vie, peine qu'ils peuvent désormais effectuer dans leur pays d'origine, donc aux États-Unis. Ce qui était plus compliqué pour la peine de mort puisqu'ils devaient attendre en RDC leur exécution. À voir aux États-Unis s'ils sont extradés, comment la justice décidera de l'exécution de cette peine de prison à vie. Dans ce même dossier, on a vu un ressortissant belge, Jean-Jacques Wando, être libéré pour des raisons médicales sans être gracié ni acquitté et regagner la Belgique libre.
Allez, rappelez-nous, Paulina Zidi, puisque Edith Divin nous le demande, quel avait été le rôle de ces Américains dans ce coup d'État raté?
Alors, on rappelle que la justice congolaise les a condamnés pour leur participation active à une tentative de coup d'État. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme, attentats, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils ont été condamnés à mort, comme une trentaine d'autres prévenus dans ce dossier. Ils étaient tous les trois, hein, ces trois Américains, présents dans le commando qui a fait cette action du 19 mai 2024. Ils sont d'ailleurs présents sur les vidéos qu'ils ont eux-mêmes filmées. Marcel Malanga, c'est le fils complice de Christian Malanga, le chef présumé du commando. Je dis présumé parce qu'il a été tué lors de l'intervention des forces de l'ordre, donc lui n'a pas été jugé. Les deux autres condamnés sont des amis de Christian et de Marcel Malanga. Pour leur défense, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ce pourquoi ils étaient là, qu'ils étaient venus passer des vacances en RDC avec leurs camarades, faire de l'humanitaire, argumentaire qui n'a pas convaincu la justice congolaise, puisqu'ils ont été condamnés une première fois et une deuxième fois fin janvier, lors du dernier procès en appel.
Merci infiniment, Pauline Azidi. Edith Divin, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
En tout cas, je suis satisfait. Je remercie vraiment Pauline Azidi pour ses explications claires.
Des explications à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Bonne journée à tous les deux. Je pense évidemment très fort ce matin à nos auditeurs de Kinshasa. Kinshasa endeuillé par les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi. D'ailleurs, demain, nous vous donnerons la parole. Vous pourrez témoigner, vous qui êtes dans la capitale congolaise. 10h16 à Paris, 33 9 693 693 72. On a reçu beaucoup de questions après les annonces de Donald Trump concernant les droits de douane américains. Depuis samedi, les produits étrangers entrant aux États-Unis sont visés par une surtaxe de 10%. Vous en avez beaucoup, beaucoup parlé sur notre antenne. On a des questions. On va donc vous passer au standard. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, monsieur Erwan.
Bienvenue, Jean-Claude. Soyez le bienvenu. Vous êtes à Lomé, au Togo. On vous écoute.
Exactement. Je voudrais poser une question au sujet de ces droits de douane américains. Le président américain, M. Donald Trump, a fortement augmenté les droits de douane envers de nombreux pays. Sur quels critères le président américain s'est-il basé pour déterminer ces droits de douane selon les pays?
Ah ouais, c'est vrai que toute la planète, ou presque, est concernée par ces nouveaux droits de douane qui vont de 10%, 10% c'est le minimum, jusqu'à 50%, 50% sur les importations du Lesotho. Bonjour Léo Charles. Léo Charles, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Rennes, m'entendez-vous ?
Oui, je vous entends.
Voilà, on vous entend maintenant. Merci de prendre quelques instants pour répondre à plusieurs questions d'auditeurs de RFI. C'est vrai que les auditeurs et beaucoup de gens ont du mal à comprendre la méthode utilisée par Donald Trump pour calculer ses taux. Est-ce que vous y voyez clair, vous, Léo Charles ?
Alors, ça a été difficile, effectivement, d'y voir clair, mais avec un petit calcul, et d'ailleurs, l'administration a publié ses calculs et sa méthode. Alors, en réalité, c'est tout à fait simple. L'administration de Donald Trump prend le déficit commercial des États-Unis avec un pays, et il considère que le résultat de ce déficit commercial, donc uniquement pour les marchandises, c'est le niveau de protection, ça correspond au niveau de protection du pays envers les États-Unis. On divise par deux et ça nous donne les droits réciproques, c'est-à-dire appliqués par les États-Unis pour compenser cette protection.
Ouais, mais visiblement, Donald Trump se base sur des chiffres erronés. Par exemple, il affirme que l'Union européenne taxe à hauteur de 39% les produits américains, alors que selon la Commission européenne, ils sont taxés entre 2,5 et 4%.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce calcul, l'erreur de Donald Trump, c'est de penser que derrière un déficit commercial, il n'y aurait qu'un effet des droits de douane étrangers ou qu'un effet d'une protection du marché étranger. En fait, un déficit commercial peut s'expliquer par plein d'autres variables. Par exemple, les choix de production, l'efficacité de la main-d'œuvre d'un pays. Et donc, effectivement, quand on se focalise sur les déficits commerciaux, ça donne une protection de 39%. Qui n'est absolument pas le cas pour l'Union européenne.
Les exportations des pays membres de l'Union européenne seront taxées à partir de ce mercredi à hauteur de 20%. On voit que la Chine est principalement ciblée par Donald Trump dans cette guerre commerciale. 34% de plus pour les produits chinois, 34% auxquels il faut ajouter les 20% déjà imposés par les autorités américaines, ce qui fait en fait 54%.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est assez logique de la part du moins de Donald Trump. En réalité, ces mesures protectionnistes, cette boîte à outils qu'utilise Donald Trump, en fait, les droits de douane, c'est une boîte à outils qu'on peut utiliser pour mener tout un tas de politiques économiques. Et là, Donald Trump choisit de mener une politique qu'on appelle néo-mercantiliste, c'est-à-dire qu'en réalité, il utilise les mesures protectionnistes pour affirmer la puissance des États-Unis dans la mondialisation. Et ce n'est pas étonnant que ces droits soient très élevés pour la Chine, puisque la Chine est arrivée comme un concurrent de l'hégémonie américaine. Les Américains, jusqu'ici, étaient les maîtres du jeu, les arbitres du commerce international. La Chine est venue un peu concurrencer ça. Et donc, Donald Trump, par l'utilisation de mesures protectionnistes, est en train de nous dire « ben, je reste puissant, je vais faire un bras de fer et vous allez voir que c'est moi qui vais gagner ».
Reste avec nous, Léo Charles, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Rennes 2. Autre question au standard. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Pourquoi certains pays comme le Canada, la Russie, le Mexique ne sont-ils pas concernés ?
Ah, trois pays qui visiblement, Léo Charles, bénéficient d'un traitement de faveur, un traitement particulier ?
Oui, oui, oui. Ces trois pays, il y a deux raisons différentes pour ces trois pays. La Russie, visiblement, Donald Trump a annoncé que comme la Russie était en négociation de paix avec l'Ukraine, il ne voulait pas peser sur son économie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a imposé des droits de douane pour l'Ukraine. Donc là, il y a vraiment une question géopolitique. Hein. On sait que le président nord-américain est plutôt proche de Vladimir Poutine.
En même temps, soyons précis, Léo Charles, la Russie est déjà frappée de sanctions américaines depuis le début de la guerre en Ukraine.
Voilà, c'était la deuxième, effectivement, la deuxième raison de ne pas peser plus sur l'économie russe. Il y a des sanctions qui ont été décidées depuis un certain nombre d'années. Et donc, voilà, l'idée, selon Donald Trump, alors les sanctions ne marchent pas forcément très bien, mais l'idée de Donald Trump, c'est de justifier ça en disant, voilà, on ne va pas peser encore plus sur cette économie.
Et pour le Canada et le Mexique, oui.
Alors, tout simplement, c'est parce que ces pays font partie d'un accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, avec les États-Unis. Ça a été les premiers visés par Donald Trump dès son investiture. Et voilà, le Mexique a réussi à imposer de nouveaux gardes-frontières, par exemple, pour limiter l'immigration. Le Canada est dans une sorte de négociation. Et en fait, bon, l'impression que ça donne, c'est que Donald Trump a dû certainement se rendre compte que attaquer ces pays pouvait être très risqué aussi pour l'économie américaine. Donc là, on est dans une période un peu de flou de négociations avec ces deux pays.
Payanfou nous rejoint, il est à N'Djamena, au Tchad. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles de RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons avec Léo Charles, maître de conférence en sciences économiques à l'université Rennes 2. Allez-y.
Aux États-Unis, le président Donald Trump a fixé les droits de douane sur les produits qui entrent sur son territoire.
Oui.
Ce droit de douane américain concerne aussi l'Afrique. À ce propos, j'ai deux questions, Juan.
Allez-y.
Quel sera l'impact sur les pays africains? Que devient l'AGOA après ces annonces?
Ah, l'AGOA, ça c'est très important. L'AGOA, c'est cette loi qui permet depuis plus de deux décennies aux produits de certains pays africains d'entrer sur le territoire américain sans payer la moindre taxe. Léo Charles, l'Afrique est également frappée donc, par ses droits de douane. Ça va de 10% à 50%. Je le disais tout à l'heure en préambule, 50% pour les produits du Lesotho, 47-40% pour Madagascar, Maurice, 21% pour la Côte d'Ivoire. Quelles peuvent être les conséquences désormais pour ces pays ?
Alors c'est assez difficile à évaluer puisque, comme vous l'avez bien dit, les différents pays sont touchés par différents niveaux de taxation. Ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre aussi de l'importance pour chacun des pays du marché américain. On sait par exemple que le Cameroun exporte que très peu vers les États-Unis, donc ils auront les moyens de se réorienter. Par contre, pour effectivement Madagascar ou le Lesotho, ça risque d'être très très difficile de survivre à cette taxation.
Et l'avenir de l'AGOA, est-ce que cet accord est définitivement enterré ?
Alors, il sera définitivement enterré lorsque Donald Trump fera passer une nouvelle loi auprès du Congrès, parce que c'est une loi fédérale, donc ça nécessite pour revenir dessus, de repasser devant le Congrès, et ça c'est prévu pour septembre 2025, mais concrètement, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, l'AGOA est largement remis en cause et on pourrait dire quasiment suspendu, puisque on impose désormais des droits de douane aux exportations des pays africains.
Bon, on suivra ça en tout cas. Merci infiniment Léo Charles d'avoir pris quelques instants, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Rennes 2. Et toutes vos explications sont à réécouter et à voir également sur l'application WhatsApp, la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Nous avons appelé ce matin Florence Labruyère, correspondante de RFI à Budapest. Bonjour Florence.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Edbert a des questions à vous poser. Il est au Bénin et il a des questions justement après la décision de la Hongrie de claquer la porte de la Cour pénale internationale. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Merci. J'ai appris sur RFI que la Hongrie a annoncé se retirer de la Cour pénale internationale. Alors j'ai deux questions. La première, qu'est-ce qui explique ce retrait? Et est-ce que cela a un lien avec la visite de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien?
Oui, effectivement.
Ou y a-t-il d'autres raisons extérieures?
Oui, Benjamin Netanyahu qui était ces derniers jours en Hongrie, le tapis rouge lui a été déroulé. Et il est reparti hier, effectivement, sans avoir été arrêté, malgré le mandat d'arrêt délivré contre lui par la Cour pénale internationale. Florence Labruyère, aidez-nous à comprendre comment expliquer cette décision de la Hongrie. La Hongrie qui est quand même membre fondateur de la CPI.
Oui, tout à fait. La Hongrie est l'un des États qui a fondé la CPI en 1999. Alors, le Premier ministre Viktor Orban explique ce retrait parce qu'il pense que la Cour pénale internationale s'est ingérée dans la situation intérieure israélienne, qu'elle a pris position dans un domaine de politique intérieure et qu'elle a outrepassé ses fonctions. Et quand la Cour a émis le mandat, Viktor Orban a dit que c'était absolument cynique, que c'était inacceptable et que c'était une décision honteuse. Alors je précise que Viktor Orban ne donne pas d'interview à la presse étrangère ou alors seulement aux médias qu'il aime bien, lui, et que donc on ne peut pas lui poser des questions en lui disant « Mais monsieur le Premier ministre, quand la Cour pénale internationale émet un mandat comme ça, elle ne le fait pas à la légère. Il y a des dizaines d'enquêteurs, de juges d'instruction qui ont travaillé sur le dossier pour corroborer les plaintes, etc. et pour avoir un dossier solide. » Voilà, donc qui explique le fait que Viktor Orban peut dire ce genre de choses sans être contredit.
Viktor Orban qui voit donc la Cour pénale internationale comme un outil politique. Ça, c'est la version officielle, Florence Labruyère. Est-ce qu'il y a d'autres raisons liées, notamment à la venue de Benjamin Netanyahou?
Oui, tout à fait. Il y a d'abord une première raison que je résume rapidement, qui est que le Premier ministre hongrois est un dirigeant de plus en plus souverainiste. Et comme tous les dirigeants souverainistes ou d'extrême droite, ce sont des politiciens qui ne respectent plus vraiment l'état de droit. C'est-à-dire qu'ils respectent les lois quand ça les arrange, en fait. Et Viktor Orban, il y a certaines décisions de la jurisprudence européenne qu'il ne respecte plus, par exemple en matière de droit d'asile. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'effectivement, sa relation avec Benjamin Netanyahu est très importante. Ce sont deux hommes politiques qui ont un parcours similaire. Ils sont tous les deux à la tête de partis politiques qui étaient autrefois des partis libéraux, progressistes, le Fidesz pour Orban et le Likoud pour Netanyahou. Et puis avec le temps, ces deux partis sont vraiment devenus des partis d'extrême droite. Ce sont tous les deux des dirigeants d'extrême droite nationalistes. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que tous les deux se soutiennent. Par exemple, quand Viktor Orban a été accusé d'antisémitisme, parce que parfois il mène des campagnes contre certaines personnes, par exemple contre le philanthrope américain George Soros, il avait mené une campagne avec un relent d'antisémitisme contre cet homme, eh bien Benjamin Netanyahu vole au secours d'Orban.
Et on voit bien, et on voit bien que lorsque Netanyahou a des problèmes avec la justice, c'est son homologue hongrois qui vole à son secours. Merci Florence Labruyère, je suis obligé de vous interrompre, on arrive déjà à la fin de cette première partie, correspondante de RFI à Budapest. Edbert, je vous salue, merci de nous écouter à Parakou, au Bénin, où je sais que vous êtes nombreux, fidèles à la radio mondiale. Il est 10h30 à Paris.